Augmente en nous la foi. À travers cet évangile que nous venons d'entendre, c'est aussi notre prière que nous faisons près du Seigneur avec les apôtres. Et la réponse de Jésus pour que nous grandissions dans ce désir de la foi, c'est de nous dire, eh bien, si on en avait un tout petit peu, nous pourrions faire des miracles. Déraciner des arbres et les faire planter dans la mer, ils nous obéiraient. Ceci nous montre que la foi, lorsqu'elle est présente, vivante dans notre vie, eh bien, la foi change notre vie, la bouleverse réellement. Il y a des arbres qui se déplacent dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos priorités, dans nos orientations de vie, dans nos manières de nous comporter. La foi change des choses, provoque des miracles, en premier lieu, dans nos cœurs, en nous-mêmes. Mais, comme dit le suite de l'Évangile, la foi exige le don d'être dans une attitude de serviteur. C'est-à-dire, on ne fait pas la foi pour avoir des idées supplémentaires, on n'a pas la foi pour avoir des idées supplémentaires, ou une certaine idéologie, une certaine manière de voir le monde qui serait différent des autres, et que parfois on peut constater dans certains débats de société. Non, la foi demande en premier lieu de nous mettre en attitude de serviteur, en attitude de serviteur vis-à-vis du Seigneur, en attitude de serviteur vis-à-vis de nos frères. La foi exige le don, demande le don, ou plutôt le don va logiquement, lorsque notre foi est vivante, le don vient de lui-même. Parce que quand on a la foi, eh bien, on exerce et l'espérance et la charité s'exprime par le don de soi. Donc nous sommes invités aussi à demander, augmente en nous la foi, augmente en nous l'amour, la charité, le désir de nous donner à toi Seigneur et à nos frères. La foi donc éclaire nos vies, elle change des choses, que je disais à l'instant, elle change des choses dans nos vies, elle éclaire nos vies. C'est vrai que quand on a la foi, quand on ne se prend pas comme une autoréférence à soi-même, mais qu'on accepte de recevoir, d'accueillir Jésus dans notre vie, d'avoir fait l'expérience de sa présence, et ensuite de devenir vraiment ses disciples, de vrais disciples du Seigneur, c'est-à-dire les disciples, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est se mettre à l'école de Jésus, c'est-à-dire qu'on ne se considère pas comme étant le maître nous, on accepte d'être des enfants et d'être enseignés par notre Seigneur. Et donc, quand nous sommes dans cette attitude, en lisant la parole de Dieu, en écoutant l'enseignement de l'Église, en priant aussi, hein, parce que le Seigneur nous parle dans la prière, par l'action de l'Esprit, eh bien la foi nous éclaire notre vie, notre vision du monde. Et donc, tous les débats que nous entendons actuellement dans notre société, les débats en particulier sur les enjeux bioéthiques, mais aussi les autres débats, est éclairé par la foi, qui nous donne une sorte de lucidité. Non pas pour nous mettre au-dessus des autres, mais c'est vrai que la foi nous donne un regard différent sur la vie, sur le monde. Et un regard qu'on pourrait qualifier d'encore plus écologique, d'encore plus respectueux de la nature, en général, et de la nature humaine en particulier. Nous voyons que cela est sacré, que cela est précieux. Nous avons cette lucidité avec l'aide du Saint-Esprit, de la foi, de l'éclairage, de l'enseignement de l'Église. Nous avons cette lucidité pour voir ce qui est bon pour l'homme et ce qui peut le détruire à petit feu. Je vous invite, dans ce débat bioéthique actuel, et puis avec la manifestation qu'il y a cet après-midi, je vous invite à lire, si vous ne l'avez fait, le texte de notre évêque, Mgr Jacques Collin, hein, qui a envoyé à tous ses diocésains, sur ces questions-là. Et vous en trouvez à la sortie de l'église, il y en a encore plein, je pense, donc n'hésitez pas à en prendre, puis bien sûr, on le trouve aisément sur Internet aussi. Mais prenez le temps de le lire, ça ne prend pas beaucoup de temps, pour vous aider à réfléchir. Il nous invite à agir de différentes manières. Il dit, c'est pas obligé de faire la manifestation, mais la faire c'est bien. Par contre, on peut aussi agir d'autres manières, hein, donc il ne faut pas hésiter. Par contre, nous avons une responsabilité d'être dans une attitude de serviteur et de ne pas faire que par rapport à moi-même, à nous-mêmes. C'est-à-dire, on se dit, moi je veux être peinard, surtout pas de vagues, pas de problème, je bouge pas. Là, c'est pas l'attitude du serviteur, c'est l'attitude de celui qui se saute et qui est auto-centré, évidemment. Donc il nous invite à agir de différentes manières. Une manière, par exemple, c'est la prière. Et cet après-midi, à 17h, dans cette église, sera proposée la prière du chapelet, qui sera méditée et autour de où nous prierons pour la dignité humaine, pour le respect de la dignité humaine et pour notre pays. Voilà, la foi nous éclaire, la foi fait des miracles, la foi nous éclaire, nous permet de voir ce qu'est vraiment la vie et le don de Dieu et le plan de Dieu. Mais la foi nous invite aussi à... la foi est faite aussi pour être partagée. Nous sommes rentrés depuis le 1er octobre dans le mois missionnaire extraordinaire. Alors peut-être vous n'en avez pas entendu parler, c'est de la faute de vos prêtres, pas de moi en premier, en tant que curé de paroisse, on n'a pas beaucoup parlé. Pourtant, c'est un mois important, voulu par le Saint-Père, le pape François. Donc, à partir du 1er octobre, nous sommes rentrés dans ce mois missionnaire extraordinaire. Et c'est important, à travers l'évangile que nous venons d'entendre, en attitude de serviteur, encore une fois, de savoir, d'apprendre à partager notre foi avec nos frères. Le Saint-Père, donc, nous y encourage à travers ce mois de la mission. Et donc, il a fait une homilie le 1er octobre pour le lancement de ce mois missionnaire extraordinaire en la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions avec Saint François Xavier. Eh bien, il a fait une homilie où il rappelle certains points et c'est ce que je vais vous rappeler maintenant. Donc, évidemment, le Saint-Père invite à être de vrais témoins, mais comme à son habitude, et nous le remercions pour cela, il nous invite à devenir des missionnaires qui ne soient pas hypocrites du tout. C'est-à-dire, je le cite, « On devient missionnaire en vivant comme des témoins, en témoignant par la vie qu'on connaît Jésus, la vie qui parle. Témoin, c'est le mot-clé, un mot ayant par sa racine le même sens que martyr. Or, les martyrs sont les premiers témoins de la foi, non par des paroles, mais par la vie. Ils savent que la foi n'est ni la propagande, ni du prosélytisme. C'est un don respectueux de la vie. Ils vivent en diffusant la paix et la joie, en aimant tout le monde, même leurs ennemis, par amour pour Jésus. Ainsi, nous qui avons découvert que nous sommes enfants du Père Céleste, comment pouvons-nous taire la joie d'être aimés, la certitude d'être toujours précieux aux yeux de Dieu? C'est l'annonce que beaucoup de personnes attendent, et c'est notre responsabilité. Demandons-nous en ce mois comment je vis mon témoignage. » Il poursuit en insistant sur le fait qu'il ne suffit pas, en faisant allusion à l'évangile de dimanche dernier, il ne suffit pas de ne pas faire le mal pour être un bon chrétien, avoir une vie cohérente, mais il faut faire le bien. Il nous invite à éviter le péché par omission. Je ne sais pas si vous confessez souvent le péché par omission. « N'oublions pas de faire le bien, nous dit-il. Nous péchons par omission, c'est-à-dire contre la mission, omission. Quant au lieu de faire rayonner la joie, nous nous enfermons dans une victimisation triste, en pensant que personne ne nous aime et ne nous comprend. Nous péchons contre la mission quand nous cédons à la résignation. Je n'y arrive pas, je ne suis pas capable. Nous péchons contre la mission quand, en nous lamentant, nous continuons à dire que tout va mal dans le monde comme dans l'Église. Nous péchons contre la mission comme nous sommes d'esclaves des peurs qui nous immobilisent et nous nous laissons paralyser par « on a toujours fait comme ça ». Puis nous péchons contre la mission quand nous vivons notre vie comme on porte un poids et non comme un don. Quand nous nous mettons au centre avec nos peines à la place de nos frères et sœurs qui attendent d'être aimés. Un peu plus loin, le Saint-Père, je ne vous dis pas toute l'homélie, hein, donc j'ai coupé un peu. Un peu plus loin, le Saint-Père nous invite, comme il l'a fait souvent, à être une église, non pas qui se referme, mais qui va vers. Une église en sortie. Une église en sortie, une église missionnaire. C'est une église qui ne perd pas de temps à déplorer les choses qui ne vont pas bien. Le manque de fidèles, les valeurs d'autrefois qui n'existent plus. C'est une église qui ne cherche pas des oasis protégées pour être tranquille. Elle ne cherche qu'à être le sel de la terre, le levain pour le monde. Cette église sait que c'est sa force, la force même de Jésus. non pas l'importance sociale ou institutionnelle, mais l'amour humble et gratuit. Voilà, et enfin, il termine en évoquant les trois saints patrons qui sont donnés pour ce mois missionnaire extraordinaire. Trois serviteurs, nous dit-il, qui ont porté beaucoup de fruits. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle nous montre le chemin, elle qui a fait de la prière le carburant de l'action missionnaire dans le monde. C'est aussi le mois du rosaire, rappelle-t-il, le mois d'octobre. Comment prions-nous pour la diffusion de l'Évangile, pour nous convertir de l'omission à la mission? Il y a ensuite Saint François Xavier, un grand missionnaire de l'Église. Lui aussi nous secoue. Sortons de nos coquilles. Sommes-nous capables de nous départir de notre confort pour l'Évangile? C'est une illustration d'être serviteur, vraiment. Et puis enfin, il y a le troisième, c'est la vénérable Pauline Jaricot. Deux Français sur trois, c'est pas mal quand même. Pauline Jaricot, qui est de Lyon, 19e siècle, une ouvrière qui a soutenu les missions par son travail quotidien, par les offrandes qu'elle prélevait de son salaire. Elle a été à l'origine des œuvres pontificales missionnaires. Une religieuse, alors voilà, point. Une religieuse, un prêtre, une laïque nous accompagne durant ce mois. Ils nous disent que personne n'est exclu de la mission de l'Église. Le protagoniste de la mission est l'Esprit Saint, ne l'oublions pas. C'est le protagoniste de la mission. Toi, va avec l'Esprit Saint, va, le Seigneur ne te laissera pas seul. En témoignant, tu découvriras que l'Esprit Saint t'a précédé pour te préparer le chemin. Courage, frères et sœurs, nous dit-il, courage, Mère Église, retrouve ta fécondité dans la joie de la mission. Amen.